Voilà, mais c'est toujours pareil, c'est quand on collecte, qu'est-ce qu'on cherche de cette mémoire-là? Est-ce qu'on cherche à faire musée? Est-ce qu'on cherche à conserver? Ou est-ce qu'on cherche des outils qui peuvent être acteurs pour construire l'avenir? Et ça, c'est un état quand on va vers quelqu'un. C'est-à-dire qu'on peut enfermer quelqu'un dans un passé ou on peut lui dire, votre passé nous intéresse pour construire demain. Et ce n'est pas la même chose et vous ne déclencherez pas la même chose non plus. Donc les compteurs aujourd'hui, ils ont cette charge qui n'est pas facile parce que souvent c'est à eux qu'on confie d'aller faire de la collecte, ils n'ont aucune technique. Hein, donc ils font comme ils peuvent, ils se débrouillent avec leur sensibilité pour aller chercher des choses. Ils ont un petit peu, on leur demande plus ou moins d'être les passeurs. Mais là, une fois de plus, comme ils l'ont toujours été, hein, c'était des transmetteurs avant tout, les compteurs. C'était pas plus que des créateurs, c'était avant tout des transmetteurs. Mais on leur demande presque de changer d'outil. C'est-à-dire de faire une rupture avec ce qui était le champ du traditionnel, pour passer aujourd'hui à une espèce de reprise en compte de la complexité de ce qui se joue. Et là, on revient à ce qu'on a déjà dit souvent, c'est-à-dire que notre société n'est pas une société immobile. C'est une société qui mute tous les jours un peu plus, qui bouge. Voilà. Et les contes, même s'ils disent la permanence de l'humain, il faut aussi des récits qui disent cette mutation. Et c'est peut-être par le récit de vie qu'on peut arriver à comprendre. À faire comprendre. En tous les cas, éclairer un petit peu ces espaces de mutation. Qu'est-ce qui bouge? Et comment, à partir de là, on peut essayer de trouver des solutions pour s'adapter à ce mouvement. Voilà. Donc, le récit de vie, pour moi, quand je parle de mémoire, de récit de vie, c'est pas le passéisme. C'est l'accompagnement des mutations, c'est l'accompagnement des changements, c'est la compréhension de ce qui se passe. C'est éclairer les fondamentaux de la mutation. Pour ça que d'ailleurs ce sont les sociologues, les ethnos, les anthropologues, les historiens qui la plupart du temps travaillent là-dessus. Parce que ce qu'ils veulent comprendre avant tout, tous ces gens-là, c'est qu'est-ce qui bouge dans notre société et comment on peut l'accompagner. Hein? On ne peut pas arrêter de toute façon le mouvement social. Voilà. La mondialisation est en route, qu'on le veuille pas. On peut se replier comme on veut. De toute façon, ça avance. Hein? C'est fait, on est dedans. Voilà. Donc il y a deux solutions. On se replie complètement. Et là, on aboutit à Al-Qaïda et des replis extrêmement forts, parce qu'on ne veut surtout pas que ça change. Hein, où on essaie de modérer et de voir comment on peut accompagner. Mais pour avoir l'intelligence de cet accompagnement, on ne peut pas se suffire de notre regard autour de vous, de nous. Hein. Il faut aussi l'histoire, et pas que l'histoire officielle, l'histoire individuelle, singulière, de chacun. Hein, c'est-à-dire que c'est la multitude des regards qui donnent l'intelligence sur une chose, et pas juste uniquement le regard de l'autorité. Donc, ce travail de récit de vie, pour moi, il est là. C'est de multiplier les représentations sur une chose, c'est-à-dire ne pas refuser la complexité du regard sur le monde. C'est-à-dire qu'on a tendance à trop simplifier et de voir qu'à partir de notre petite lorgnette. Si on commence à faire ce travail avec des gens très différents, ça devient très intéressant parce qu'on a des multitudes de points de vue et on a des multitudes aussi de choses qui nous mettent dans une complexité, mais qui, quand on y touche, c'est rassurant. Commencer à comprendre cette complexité parce qu'on s'aperçoit que c'est des toutes petites différences en fait, c'est pas si différent que ça. Hein? C'est juste des petits détails qui ne bougent pas des grosses choses. Hein? Voilà. Donc ça devient intéressant aussi pour aller vers l'autre, hein? Pour aller vers l'altérité. Voilà, donc je pense que moi je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant parce qu'après on va pouvoir en discuter entre nous, je pense que c'est plus vivant. Hein? On pourrait démarrer de ça en tous les cas si vous voulez bien et aller dans la conversation. Voilà, merci.
Différence avec le conte, ce n'est pas le fait qu'il se situe dans une période précise aussi.
C'est pour ça que ça ramène plutôt au légendaire et à l'épopée, parce que la légende, on l'a vu, hein, c'est un espace qui est. C'est-à-dire la légende, c'est un récit de fiction, mais qui s'attache à un lieu très concret et à un temps très concret. C'est souvent. C'est-à-dire le pont du diable, on sait où il est le pont, on peut le toucher, il n'y a pas de problème. Souvent, on sait même quand c'est qu'il a été construit, à peu près, là, donc, il y a une période, il y a un côté spatial et temporel qui est donné. Hein. L'épopée, c'est pareil, c'est flou, mais on sait que c'était à peu près là. Quand on parle de la geste italienne, on sait que c'est l'invasion du nord de l'Afrique. Hein, c'est une grande épopée qui nous raconte. Donc, on sait à peu près que c'est le 7e siècle. D'accord? Donc, on est dans des temps comme ça, hein, mais on s'aperçoit par contre que ce qui est donné, il y a des choses vraies, des choses fausses. Ça a été mis à distance. Hein, toute l'Iliade, Troie, oui, on l'a cherché longtemps, on a plus ou moins trouvé l'Iliade aujourd'hui, mais voilà, pour savoir si l'Iliade raconte vraiment l'histoire de l'Iliade, on n'en saura jamais rien. Parce que là-dedans, il y a autre chose. Hein. Alors, donc je pense que le récit de vie, ça, quand il commence à être distancié de la réalité, quand il devient un élément exemplaire, on va dire, hein, c'est surtout ça, c'est quand il passe au légendaire, ça devient un élément tellement important que même si on ne le situe plus dans l'histoire, c'est à raconter quand même.
Le travail du collecteur rappelle un peu celui du psychanalyste dans son approche.
Oui.
Où il fait sortir justement de la mémoire plein d'événements enfouis, mm-hmm. avec une interprétation différente pour la psychanalyste qui se rapporte qu'au sujet, et plus général avec le collecteur qui ramène tout le groupe avec ce récit.
D'ailleurs, sur le terme technique, hein, quand on travaille avec un informateur qui devient porteur du récit de vie, on l'appelle le sujet, comme en psychanalyse. Hein, ouais. On change de terme. C'est-à-dire que l'informateur, c'est celui qui donne des informations. C'est souvent quelqu'un qui va nous dire oui, comment ça se parle ici, comment ça se. Mais qui ne s'implique pas dans cette information. Puis à un moment donné, il y a le passage au récit de vie où là, l'informateur s'implique et donc il devient le sujet. Hein, il devient le centre. Hein, voilà. Et bizarrement, le conteur lui reprend le jeu et va le transformer en il. Donc il va le remettre dans une distance. Il va C'est-à-dire que le conteur ne s'implique pas dans le personnage comme le théâtre. Hein, mais il va être le témoin. Donc il va toujours poser le personnage dont il parle, ce sera il, ce ne sera pas moi. Hein, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un témoin extérieur à ce qui a pu se passer. Hein, voilà. Donc c'est ça, on est pratiquement de la psychanalyse en mettant dans des choses très différentes. Parce que l'objectif, on va dire, n'est pas le même. Le psychanalyste cherche à trouver un espace de thérapie à terme, il essaie de trouver un lieu du soin. Là, on essaie de trouver une connaissance partagée. Hein, donc on est dans des choses qui distancient beaucoup plus, qui sont moins introspectives, on va dire.
Oui, mais ça peut avoir un impact aussi sur le sujet qu'il raconte.
Ah, tout à fait, bien sûr. C'est pour ça que je disais, dans le meilleur des cas, ça a des effets positifs. Il peut y avoir des effets négatifs, c'est-à-dire quand on a l'espace où on peut réveiller sans vouloir une blessure.
Oui, c'est pas innocent.
Non, c'est pas innocent. Non. C'est pour ça que moi je sais qu'on fait des formations à la collecte et on insiste beaucoup sur la déontologie du collecteur. C'est-à-dire être capable, d'avoir une technicité minimale, de détourner l'endroit de l'introspection trop forte. De ne pas déclencher, de pas déclencher la décharge. Quoi. On ne peut pas gérer, on n'est pas technicien pour ça. Voilà. Donc ça aussi, ça ne peut pas se faire n'importe comment, le collecte. Il y a la nécessité, bien sûr, d'avoir des distances, d'avoir cette capacité avec la distance. Donc ce qu'on cherche, est-ce qu'on cible, est-ce qu'on cerne, est-ce qu'on limite, c'est le champ d'une connaissance partagée et surtout pas un lieu de l'introspection ou de la pénétration d'un dit. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir éviter.
La frontière est très
ténue. Il ne faut pas grand-chose. Hein. C'est pour ça que c'est le travail des collecteurs n'est pas quelque chose qui s'improvise, hein, comme beaucoup de boulot. C'est aussi des champs qui doivent être bien conscientisés. Ça, c'est très important. Oui, de toute façon, dès qu'il y a échange de parole, on n'est jamais loin du processus psychanalytique. Hein. Je ne sais pas, il y a d'autres questions.
Oui. Est-ce que tu as l'impression que aujourd'hui, enfin dans notre époque, il y a un travail plus important qui se fait dans ce domaine, justement, sous forme de création par les conteurs ? Et est-ce qu'il y a des périodes comme ça ? On est plutôt en creux, est-ce qu'on a pu identifier des périodes ?
De toute façon, le renouveau du conte, on va dire, hein, parce que pour moi, il y a deux périodes. La période du conte avant 1950, où on était encore dans un conte extrêmement traditionnel, où le conteur racontait pour consolider les codes, les valeurs et les mœurs de la communauté. Donc il enfermait plutôt la communauté sur elle-même. Hein. Et puis dans les années 70, il y a un renouveau du conte qui se met en place. Donc on reprend les mêmes récits, qui, quand on les regarde bien, sont des espèces d'outre-vide, hein, mais pas pour les mêmes objectifs. C'est-à-dire que ce n'est pas pour repartager des codes dans une communauté fermée, mais plutôt accompagner l'espace d'ouverture qui se joue avec la mondialisation. Hein, donc ça veut dire que déjà là, il y a une conscience qui se met en place sur les objectifs même du conteur. Hein. On ne peut plus raconter les contes de la même façon, on a de moins en moins de contes de pays qui se racontent à terme. C'est-à-dire les contes sont de plus en plus universaux. Hein, dans leur objectif. Voilà. Donc on n'est pas les mêmes répertoires, même si c'est des contes traditionnels qu'on prend, on ne les raconte pas de la même façon. Et en même temps, on s'aperçoit que ça ne suffit pas. Parce que ces contes-là accompagnent bien ce qu'on appelle la permanence de l'humain, c'est-à-dire qu'ils nous disent que l'humain est là, depuis la nuit des temps, cet humain, il est comme ça. Et le conte nous dit ça. Donc, il va s'appuyer sur la permanence, mais il ne donne rien de l'informatif. C'est-à-dire qu'il ne nous dit pas ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, pour les conteurs qui sont quand même dans un processus d'individualisation extrêmement fort, ils ont besoin aussi d'affirmer, en gros, ce qu'ils sont au monde aujourd'hui. Hein? Et là, on s'aperçoit que dès les années 80, il y a un basculement qui se met en place. Il y en a de plus en plus de conteurs qui vont se pencher sur le répertoire du récit. C'est-à-dire accompagner, mettre une parole sur ce qui se passe aussi aujourd'hui. On continue à dire la permanence de l'humain, parce que c'est important dans l'espace chaotique qu'on traverse. Hein? On est dans des zones de turbulence en ce moment. Il y a plein de valeurs de codes qui arrivent de tous les côtés. On ne sait pas trop où faire notre bascule. Donc c'est un peu, c'est quand même intéressant d'avoir quelque chose qui nous dit ben voilà, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a un centre là, depuis la nuit des temps, on est comme ça. Ça c'est bien, ça rassure un peu. Mais n'empêche que ça ne suffit pas non plus, il faut aussi accompagner par la mise en parole un petit peu l'espace de la perturbation, de la mutation. Il faut mettre de l'intelligence là-dessus. Hein. Donc le conteur s'en saisit aussi, parce que c'est un être capable de fonder justement une parole, normalement, s'il a bien travaillé, on va dire. Hein, s'il est un peu dans une conscience de ce qu'il a à faire. Comme d'autres artistes, hein, il n'est pas le seul, bien sûr. Il y a des gens de théâtre qui font du récit, il y a plein d'autres, des gens de cinéma. Et disons que là, on est surtout avec quelqu'un qui est un spécialiste de la narration. Donc il se sent assez à l'aise dans ce domaine-là. Hein, il peut aller loin.
Ce besoin, finalement, de devoir, de mémoire, est-ce que ce n'est pas un peu sous la pression de la mondialisation, de l'homogénéité de tout, de...
C'est-à-dire qu'il
n'y a pas ça aussi derrière.
Bien sûr, il y a ce que j'appelle, moi je n'ai pas trop parlé là, hein, parce que le récit de vie ne sert pas trop à ça en général. Le devoir de mémoire, c'est plus la mémoire collective.
Oui, mais ce recueil justement. Voilà.
Alors, la mémoire collective est importante aussi parce qu'elle est fondatrice de l'identité. Mm. C'est-à-dire que pour se fonder l'identité avec le collectif, il faut qu'on partage des valeurs communes. Donc ça veut dire que c'est quoi la mémoire collective ? C'est avant tout un lieu. Important mais manipulé, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est très politique, la mémoire collective. On ne va pas mettre n'importe quoi dans la mémoire collective. On ne va pas, même s'il y a des choses qui débordent, hein, on a bien vu les réactions de notre président avec les 68. Il ne voulait plus en entendre parler. Pourtant, c'est bien la mémoire collective aussi, mais elle est transgressive un peu par rapport à ce qu'il propose. Hein. Voilà. Donc, il y a des espaces de ritualisation, on va dire, qui sont plus ou moins choisis, qui sont plus ou moins développés, donc de façon alternée. On commence à parler de la mémoire des harkis. Depuis quand ? Pas beaucoup, hein. Voilà. On commence avec un déclencheur qui a été le film, comment il s'appelle ?
Très bon film, je m'en rappelle plus.
Oui, Indigène, voilà. Hein. Voilà. Donc, qui déclenche à un moment donné une espèce de reconnaissance comme ça. Mais tout ça, c'est des espaces qui sont là en latence depuis des années. C'est des combats permanents, c'est des... Et à un moment donné, on ne peut plus faire autrement que d'accepter cette mémoire et la faire entrer dans la mémoire collective. Hein. Mais là, on est dans l'espace de la mémoire patrimoine. Le patrimoine est extrêmement politique. C'est un choix permanent. Tout ce qui est choix est politique. Hein. Si on choisit de garder tel monument plutôt que tel autre, c'est un choix. Hein, et on est obligé de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Ça ne se fait pas comme ça sur un coup de dé. Hein. Voilà. Donc là, on est dans un autre endroit, c'est-à-dire comment la mémoire est plutôt un lieu de la construction du politique. Moi, je suis pas, c'est pas péjoratif, moi, en politique. Hein. Ouais. C'est indispensable d'être dans le politique. C'est la gestion. Hein. C'est l'espace de la gestion du communautaire. Voilà. Mais ça veut dire que, bien sûr, on n'est pas dans le même endroit parce que c'est pas l'individu qui prime. Hein. Tout le contraire, on va faire en sorte d'effacer l'individu pour n'avoir qu'une image collective.
Hein. C'est le signifiant d'une identité.
Voilà. Hein. Donc, c'est un outil à construire l'identité. Donc,
mais on a besoin de ça aussi pour se construire.
Bien sûr, c'est-à-dire qu'on peut pas
il faut cette
plus,
cohésion de l'identité.
Tout à fait, on peut pas être dans une rupture globale. Hein. Il y a un aménagement, il y a un accompagnement des mutations qui fait que, bien sûr, on ne peut plus être sur une identité aussi fermée qu'à une époque, mais en même temps, on ne peut pas non plus se dire « j'ai plus d'identité, c'est pas possible hein, ». Il y a une nécessité pour vivre, pour se... L'identité, c'est quoi en fin de compte ? C'est pas une identité, hein. C'est une multitude d'identités, et c'est pas nous qui la décidons uniquement. C'est la reconnaissance par les autres, l'identité. C'est aussi, c'est moi ce que j'ai envie d'être, c'est ce que les autres reconnaissent de cette envie-là. Voilà. Donc c'est pas si évident. Et en même temps, sur quoi je me construis, par qui je veux être reconnu, hein, voilà, et qui me reconnaît vraiment. Voilà, c'est ça l'identité. Donc la mémoire en fait partie. Quelqu'un qui a fait la guerre de 40, de la dernière guerre, on va dire, hein, et qui a fait partie du maquis, il va avoir un groupe d'appartenance dans lequel il est reconnu, voilà, et donc dans lequel il peut valoriser aussi un moment de sa vie. D'accord ? Mais ce n'est pas lui qu'on va reconnaître, c'est l'action collective, sur le plan de cette unité-là. Hein. Alors que le récit de vie va aller chercher, dans ce même moment de l'histoire, des regards singuliers. Et ce n'est pas toujours des regards valorisants. Parce qu'il n'y a pas eu que des belles choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que dans le côté de la mémoire politique, on va dire, on va surtout essayer de valoriser cet espace-là. Et c'est là qu'on a la bascule, des fois, qui n'est pas facile, parce que, mais qui rétablit une justesse par rapport à cette histoire. Ce n'est pas tout blanc, ce n'est pas tout noir. Il y a un peu des deux. Hein. Guerre d'Algérie, on a du mal à en parler aujourd'hui encore. C'est trop frais. C'est trop frais, puis c'est une drôle de guerre. Guerre d'Algérie, on est quand même sorti d'un endroit où on venait de faire partir les Allemands de chez nous qui nous colonisaient, d'accord ? Et on demande d'aller, nous, changer complètement d'espace, c'est-à-dire d'aller dans un endroit qu'on colonise pour faire la même chose. C'est pas très valorisant pour les gens qui ont fait cette guerre, qui souvent ont été obligés d'y aller en plus. On ne leur a pas demandé s'ils voulaient y aller ou pas, on les a poussés dedans. Hein.
Voilà. C'est pour ça que pour être finalement complet, il faudrait, quand il y a comme ça des faits qui appartiennent à deux parties différentes, faire les collectes des deux côtés, en fait.
Alors aujourd'hui, on a quelqu'un qu'on a eu, nous, dans les séminaires, qui va travailler aussi côté algérien.
Oui, bien sûr. Voilà,
parce que quelque part, c'est important qu'on ait ces deux côtés-là.
Tout à fait.
Pour pas qu'on ait que du blanc et du noir, mais qu'on ait bien cet endroit où on s'aperçoit bien que les gens qui ont accompli des actes, pas toujours, c'est pas eux qui les ont décidés de toute façon. On les a envoyés à la boucherie, hein, et puis ils étaient là. Puis bon, c'est bien d'avoir ces deux paroles. Parce que quelque part, c'est ce qui permet, à un moment donné, d'éviter la fantasmatique, hein, sur des objets de violence comme ça. Parce que la fantasmatique est beaucoup plus dangereuse que la réalité, la plupart du temps. Voilà, donc pour moi, aller dans ce travail de collecte de récits de vie, on est vraiment dans cette acceptation d'aller vers la complexité des choses, pas la simplification. On sait qu'on va avoir des paroles multiples, on sait qu'on va se confronter à des choses qu'on n'avait pas du tout envisagées, mais qui sont aussi réels que tout ce qu'on avait, elle nous a appris, quoi, à terme. Hein, voilà. Donc ça veut dire qu'on va être obligé de revoir nos positionnements aussi. Hein, ça n'est pas toujours à l'aise de faire des récits. Il y a des choses où c'est très ambigu. Hein, voilà. Donc c'est, pour moi, c'est l'honnêteté du chercheur, hein, aussi, c'est ça. Ou du conteur, qui, lui, dans son travail artistique, va avoir des positions. Il n'y a pas d'artiste sans position, il n'y a pas d'artiste neutre, il n'y a pas de chercheur.
C'est subjectif.
De toute façon. Hein. Surtout en sciences humaines. Mais en tous les cas, il y a cette intention d'aller vers un espace de neutralité, même si on n'arrive jamais réellement. On a tous des préconçus, de toute façon. Voilà, donc pour moi, là, le travail du chercheur et du conteur se retrouve, et bien sûr, l'objectif n'est pas de faire passer les choses au même niveau. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que pour moi, le chercheur va essayer de ramener au maximum d'objectivité et de rationalité. Et l'artiste, lui, va essayer de nous amener dans une vérité émotive. Il va essayer de faire bouger ce qui est le plus difficile à faire bouger. C'est-à-dire des choses qui sont vraiment au fond, et la tête ne suffit pas. Il faut passer par autre chose. Voilà. Donc ça c'est leur boulot, des artistes. Hein. C'est pas gagné d'avance. Hein. C'est un gros investissement. Hein.
C'est retrouver un ancrage dans le présent, en fait.
Oui. C'est-à-dire que pour moi, tout acte artistique est un acte de rituel. C'est un rituel. Alors, le rituel n'est pas obligatoirement que religieux. Pour l'anthropologue ou pour l'ethnologue, le rituel, il est là tous les jours. On est des êtres de rituel. On ne peut pas faire autrement. Quand on se serre la main, quand on va dire bonjour à quelqu'un, on accomplit un rituel en permanence. Hein. Et dans l'acte artistique, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une messe laïque, en gros. Hein. C'est-à-dire comment je vous mets dans un état. Quelque part, on va traverser quelque chose ensemble. Hein? On sait très bien que le rituel, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'intellect. Si vous allez dans une messe, au sens plein du terme, vous êtes corporellement engagé dans le rituel. C'est pas une question de le réfléchir, le rituel, vous le faites. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, dans l'art artistique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si le public reste au niveau de l'intellect, on est dans une conférence, mais on n'est pas dans le... On n'est pas dans l'acte artistique. Hein. S'il en sort avec un choc émotif, il ne sait pas trop où ça l'a touché, mais ça l'a touché, on était bien dans un rituel artistique. D'accord ? Ça se met au travail. Après, chacun fait ce qu'il veut avec, c'est pas grave. Il n'y a pas non plus d'intention de faire comprendre, ou de faire ressentir, ou de... Non, on pose les choses, chacun ressent ce qu'il veut sentir et ce qu'il peut sentir. C'est ça le vrai travail d'artiste. Sinon, ça devient politique. C'est autre chose. Il n'y a pas de vérité dans le travail artistique, il y a simplement un lieu du partage.
Donc en fait, un travail artistique réussi, c'est celui qui arrive à faire réagir en face le sujet et à lui donner de quoi s'approprier sa vérité personnelle.
Voilà. Pour moi, c'est un lieu d'une conscience, mais qui n'est pas collective, mais individuelle. Comment moi, à partir de ce qu'on m'a donné, j'ai déclenché quelque chose qui me permet de construire une conscience individuelle sur ce qu'on m'a proposé.
Et qui dépasse même parfois l'intention de...
Tout à fait. Alors ça, c'est le top du top. Ouais. Tous les artistes n'y parviennent pas. Hein. Ouais. Mais ils essaient. Ouais. Il y a Michel Hidonov, qui est un grand conteur que vous avez eu ici sur les Renardises. Hein. Lui, quand on lui demande c'est quoi être artiste, c'est quoi le contrat de l'artiste plutôt, il dit le contrat de l'artiste, c'est d'arriver sur une scène. Et le contrat, c'est d'essayer de faire venir le beau sur scène. Alors, le beau, pour lui, c'est vraiment cet espace de partage. Voilà. Mais si la scène n'est pas bonne, si le public n'est pas bon, si ce soir je suis fatigué, s'il n'y a pas toutes les conditions, c'est-à-dire que cet espace de partage, c'est le petit miracle qui se joue de temps en temps, mais qui ne se joue pas toutes les soirées. Même si les artistes ne sont pas mauvais, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je n'ai pas beaucoup partagé. Hein. Je m'en rappelle d'un aux arènes de Nîmes avec Petrucciani. Pianiste de jazz, hein, avec des gens qui étaient complètement figés pendant presque 4 minutes, 5 minutes, sans pouvoir taper de main. Parce qu'il y avait quelque chose qui était tellement fort qu'on ne pouvait plus passer à l'applaudissement. Voilà. Et ça, c'est les moments où on sent très bien qu'il y a eu quelque chose de tellement fort de partager que ça, c'est. Voilà, mais ça, on ne le trouve pas tous les matins. Hein, c'est-à-dire que le public était bon, la scène était bonne et le pianiste aussi. Donc là, super. Hein, mais ça n'arrive pas tous les jours. Même si le public, les autres jours, n'est pas mauvais, même si c'est agréable, mais pour arriver à ce moment-là, cet étang de grâce-là, ça ne s'arrive pas tous les quatre matins. Voilà, donc trouver du récit de vie, c'est ça aussi, c'est-à-dire pour l'artiste, l'enjeu, il est là, c'est quand il rentre sur scène. C'est pas accomplir un acte technique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'il a besoin de la loge, c'est pour ça qu'il a besoin de se mettre dans une condition pour entrer sur scène, c'est pour ça que la scène, si elle n'est pas bonne, ben, avoir plus de mal que si c'est un lieu un peu magique déjà en tant que tel. Voilà, donc c'est toute cette préparation qui fait qu'à un moment donné, il y a ce côté magique qui peut se passer ou pas. Voilà, donc c'est fragile, c'est pour ça que c'est fragile, hein. C'est jamais gagné d'avance. Même s'il a bossé pendant 15 ans, son spectacle.
Il y a quand même des spectacles qui font l'unanimité, ou que ce soit.
Oui, si tu fais un one-man show qui est extrêmement dans le côté... Bon, j'adore les one-man show, de plus, c'est pas critique, hein. Mais je veux dire, c'est pas le même enjeu. C'est qu'on est là pour déclencher du rire, on est là pour amener les gens à un défoulement, à un espace de lâcher prise. On a des codes qui sont très, très posés, mais dès qu'on est sur des spectacles extrêmement sensibles, les enjeux sont plus difficiles à atteindre. C'est-à-dire, après, pour moi, il y a des niveaux de spectaculaires qui sont... Voilà, un spectacle de rue qui ne fait que de l'image, ça peut être très agréable. Pas pour ça que ça... Voilà, non, des fois, le lendemain, on ne se rappelle plus vraiment, quoi. C'est passé. Hein. L'Africain, hein, qui parle de paroles d'eau, paroles d'huile. Il y a des paroles d'eau, où, quand on vous parle, on tombe sur une chemise, et puis ça sort, c'est sec. Hein. Puis la parole d'huile, par contre, 10 ans plus tard, vous avez encore la tache sur la chemise. Donc ça, c'est des niveaux. Après, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre. Il ne faut pas que de la parole d'huile, hein, parce que ça serait indigeste. Hein. Mais de temps en temps, c'est bien qu'il y en ait un petit peu aussi. Voilà. Ce n'est pas que la parole d'eau. Hein. C'est un grand anthropologue qui s'appelle Daniel Fabre, qui, lui, dans son hypothèse, dit qu'on est passé de la fête pour faire communauté à la fête pour oublier et s'oublier. C'est-à-dire, à l'époque, quand on faisait une fête, c'était pour retrouver les autres. C'est pour recéler quelque chose de l'ordre de la communauté. Et aujourd'hui, on va faire la fête, surtout pour ne pas voir les autres, hein, et puis pour essayer de se défouler, comme on dit, ou bon, de s'éclater, mais on n'est pas du tout dans la volonté de faire relation.
C'est vrai. Hein.
Donc on a changé complètement de monde, mais ça, c'est nos mutations aussi sociales. Hein. Dans des espaces, on ne peut pas revenir en arrière à ce moment-là. Mais c'est bien d'en être conscient. Ça permet des fois de changer.
On peut analyser aussi la chose.
Ah. Ah. questions ? Bon, ben c'est bien, on n'a plus qu'à se dire un prochain. Enfin, la saison prochaine, parce que ça sera déjà encore 2008. Comment ? Oui, s'il y a des personnes qui veulent de l'info sur le spectacle de vendredi, il y a quelques plaquettes qui restent là, vous pouvez les prendre. Merci en tous les cas.
Merci à vous.
Thank you.